tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com. Chouette, 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 indirect. Le batracien sort de sa mare et vous retrouve en ville. Radio Grenouille, en direct. En direct. 88.8 FM. Nous écoutez à volonté, radiogrenouille.com.
13h30, le nouveau rendez-vous irrégulier de Radio Grenouille, mais toujours à la même heure. Un rendez-vous proposé aujourd'hui par Emmanuel et Mélanie. Aujourd'hui, dans ce 13h30, nous recevons Thomas Ordono, directeur de Shellac, maison de production, de distribution et d'édition de cinéma. Une maison qui vient de fêter ses 10 ans. C'est donc l'occasion trouvée pour parler de cinéma aujourd'hui. Quelques noms des réalisateurs qui peuplent Shellac: Claire Simon, Vincent Dieutre, René Alliot, Bertrand Bonello, Philippe Grandrieux, Alain Guiraudy, Nicolas Klotz, Miguel Gomez. Comment qualifier le cinéma de Shellac? Voyons d'abord comment Shellac qualifie son propre cinéma. Un cinéma qui sans cesse repose la question de la forme pour aborder le fond. Il n'y a pas toujours du cinéma dans un film. Cela arrive parfois, par hasard pour certains ou par volonté pour d'autres. Mais le cinéma n'est pas toujours garanti dans un film. Cette idée avancée par Pierre Damien Huyck dans son ouvrage « Le cinéma avant, après », eh bien je la fais mienne ici. Je la fais mienne pour affirmer que dans les films distribués, produits par Shellac, il y a du cinéma. Thomas Ordono, bonjour. Alors, avec nous, Mélanie, avec Mélanie, nous vous proposons, Thomas Ordono, quelques chantiers de discussion nous pourrons pas tous ouvrir, malheureusement, en une demi-heure, c'est trop court. Le cinéma, et d'abord, pourquoi le cinéma, pour vous? Puis, il nous faudra cerner le type de cinéma, disons, que vous distribuez ou produisez. Et puis, l'économie, dans quelle économie circulent ces films? Mélanie?
Pour mes grands travaux à moi, aujourd'hui, j'aurais envie de parler d'indépendance, de cinéma indépendant, passer maître dans l'art de la débrouille, des budgets qui baissent, qui baissent, qui baissent, des jeunes réalisateurs aussi, peut-être parce que je suis jeune, alors qu'est-ce que c'est un jeune réalisateur et comment ça marche, des nouvelles formes aussi de cinéma et d'innovation, car c'est un mot à la mode, mais j'ai envie de creuser tout ça. Et puis je ferai un petit détour par le cinéma des variétés et la question du label Art et Essai.
Avec nous dans les studios pour participer à cette discussion, Julien Cholanami, membre du Vidéodrome, aujourd'hui Vidéoclub, bien connu à Marseille, rue Vian, et bientôt cinéma au cours Julien, n'est-ce pas?
Salle de projection, en mois de juin, si tout va bien.
Si tout va bien au mois de juin, je crois qu'il y avait eu un kiss-kiss-bang-bang, ça a bien fonctionné.
Ça va.
Donc les travaux vont commencer.
Les travaux vont commencer, on est en période de levée de fonds.
Catherine Chazel, avec nous aussi. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Étudiante en cinéma documentaire qui nous parlera du film « Moi, Pierre Rivière » de René Alliot, c'est cela?
C'est cela.
Bien. Et aussi, tout au long de cette émission, quelques extraits sonores de certains films, comme par exemple, allons-y.
Es war als der Himmel, dass sie im blieden Schimmer,
c'est pas comme avant,
von ihm nur träumen ist.
L'extrait d'Un lac, un film de Philippe Grandrieux, n'est-ce pas Thomas Ordono? C'est un film que vous distribuez, que vous produisez?
Non, je distribue seulement. Vous avez cité tout à l'heure pas mal de réalisateurs avec qui on a collaboré. Il faut bien faire attention quand on parle de par exemple Bertrand Bonello. Bon, voilà, avec Bertrand, on a mené une expérience qui était la sortie d'un film qui n'existait pas, qui n'existait que sous sa forme de bande-son. pour lequel on a tourné le film en question, qui devenait un support à l'audition de la bande-son du film d'origine. Voilà, notre collaboration avec Bertrand s'est arrêtée là. J'ai pas développé le travail de Bertrand. C'est d'autres personnes qui l'ont fait. C'est d'autres personnes qui le distribuent, ces films en salle. Et donc, moi, j'ai eu, par exemple, si on prend cet exemple-là, qu'un parcours très réduit, très ponctuel avec lui. En même temps, j'accepte parce que ça fait partie des multiples collaborations qu'on tisse, et ça fait partie, et Bertrand, je pense, le démentirait pas, d'une famille de cinéma, d'une manière d'approcher le cinéma qui est certes générationnelle, qui est aussi un petit peu politique dans l'approche de la fabrication, de la monstration des œuvres, etc.
Schellack, pourquoi Schellack?
Pour pas prendre un nom qui soit trop directement relié au cinéma, comme les films d'eux ou etc. J'ai rien contre. C'était l'idée. C'est un acronyme, Schellack. SHE2LAC, Société Héliotrope de Libre Action Culturelle. On est complètement axé sur le cinéma. On s'est développé sur, disons, 10 ans de distribution. Parallèlement à ça, on a développé la production, l'édition DVD. On est vraiment autour du cinéma, mais on aime que le cinéma puisse être aussi un lieu de rencontre. Et donc, y compris dans sa conception ou même dans sa promotion, sa diffusion, un lieu de rencontre entre différents médias. Donc, vous parliez de Grand Rieu. Bon, Philippe, il travaille aussi bien sur le champ de l'art contemporain
ou de la danse.
Mais quand on travaille sur un film de Miguel Gomes, on arrive avec une bande-son qui donne envie d'éditer un DVD, un CD. Quand on travaille avec Arnaud Despalières sur son premier film, on rencontre Martin Wheeler, son compositeur, avec qui on produit un disque qui est fait depuis les sons du film.
Adieu, je crois, c'est ça.
Ouais, c'est un Adieu, UID, qui était le disque de Martin. Donc, c'est des expériences parallèles et très ponctuelles, mais c'est l'envie de s'autoriser un peu les choses. Et c'est ce qu'on fait de toute manière dans la production, la distribution, l'édition cinématographique d'un point de vue plus classique. C'est-à-dire que Schellack a travaillé pendant 10 ans à pouvoir être un outil qui lui permettent de assez librement envisager de travailler sur des projets indépendamment de leur rentabilité, indépendamment de leur prégnance immédiate avec le marché, en tentant de croire à des choses et puis en se trompant aussi, hein, bien sûr, mais en ayant un peu cette possibilité d'avoir une mini assise qui permette cette approche là.
Alors, comment qualifier le cinéma que vous défendez, si on pourrait le qualifier un peu en quelques phrases?
C'est difficile. Bon, c'est un cinéma qui est relativement indépendant de toute manière dans son financement et qui dépend beaucoup du désir des gens qui vont y participer pour le fabriquer et pour le faire vivre après. C'est-à-dire ça va beaucoup dépendre des réseaux de cinéphiles, de gens qui portent la même idée de cinéma d'un point de vue donc esthétique et politique, parce que les deux sont liés. Donc journalistes, festivals, exploitants,
on peut parler
public.
De cinéma d'auteur.
Oui, c'est un cinéma d'auteur. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. On peut parler de cinéma d'auteur. C'est un cinéma qui est en construction beaucoup. C'est-à-dire que je crois qu'on a beaucoup participé à des chantiers et on y participe beaucoup. Donc des chantiers, c'est des films qui sont pas forcément encore parfaits, mais où il y a déjà une proposition qui est forte et où on sent déjà qu'il y a quelqu'un derrière cette proposition et que cette personne-là va revenir avec d'autres propositions. Je pense que c'est la principale chose, moi, qui m'intéresse en tant que public. Moi, je suis venu au cinéma pas du tout par la cinéphilie. Je suis pas un cinéphile de formation ou même de première approche, c'était plutôt sur la musique, et c'était plutôt en musique le fait d'aller chercher dans les bacs de vinyle, de découvrir des choses et de revenir avec ma petite galette et d'avoir l'impression que j'avais entre les mains l'avenir de la musique et de voir avec les années que ça pouvait se confirmer, que c'était raté, que c'était pas ça, que ça devenait mauvais finalement. Et donc c'est le même rapport au cinéma.
Dans la salle, il y avait des policiers partout. Je ne pouvais rien dire, il y en avait plein. Ils me faisaient toujours peur. À l'hôpital, la dame m'a demandé de me déshabiller. Je me suis déshabillée et elle a mis des coups. Parce que j'avais des coups partout sur le corps. C'était des jeunes garçons, ils étaient plusieurs. Trois ou quatre. Ils me donnaient des coups.
Non, je ne veux pas rentrer. Je ne peux pas. Je demande asile.
Vous êtes des singes, des macaques. Vous êtes sales. Vous puez. Salope. Lève-toi, putain de moi.
Extrait de La Blessure de Nicolas Klotz. Tout à l'heure, on a entendu donc Un lac de Philippe Gandrieux, un film qu'on pourrait, disons, porté comme ça, plus peut-être sans doute du côté de la poésie, et puis là avec ce film de Nicolas Klotz, La Blessure, ou La Paria par exemple, c'est aussi un film qu'on peut trouver, je crois, dans votre catalogue. Film plutôt, disons, qu'on peut aussi porter du côté, cette fois-ci, de la politique. Poésie, politique, sont deux piliers pour vous dans, par exemple, la question du cinéma.
Oui, disons que Oui, je trouve que c'est une bonne manière de synthétiser les choses. En tout cas, c'est la façon dont, avec chaque genre et chaque outil amené par chaque genre qu'un cinéaste veut aborder, il n'oublie pas ce qu'il comporte de possibilité d'écrire le monde. Donc d'être dans la cinématographie, quoi. Donc de vraiment d'utiliser ce qui est à sa disposition pour parler du monde. Après, politique, pour moi, ce n'est pas forcément quand Nicolas parle du passage à l'an 2000 en mettant sa caméra au milieu des centres de domicile fixe ou pour Paria, ou comme pour La Blessure sur l'accompagnement aux frontières. C'est évident à cet endroit-là et c'est bien à cet endroit-là. Mais ça peut l'être à bien d'autres endroits, y compris dans une comédie. Enfin, voilà, c'est
Julien, la Vidéodrome, Shellac, disons qu'on a les deux extrémités de ce qu'on pourrait appeler une chaîne, le cinéma, du producteur, distributeur jusqu'au diffuseur. Voilà.
Diffuseur multi-support, on pourrait dire.
Ces films dont on a parlé, Un lac, La Paria, La Blessure, et puis les cinéastes qu'on a cités, c'est des films qu'on retrouve en partie au Vidéodrome.
Absolument, on a particulièrement un partenariat avec Shellac, donc on est à la fois lieu de vente des éditions Shellac et lieu de location des films Shellac lorsque les droits locatifs nous sont consentis par Thomas.
Le public, comment il reçoit ces films? C'est des films qui sont beaucoup beaucoup vus.
Oui, c'est-à-dire que comme c'est la nature même de la ligne de notre fonds, justement, d'aller proposer simultanément des films grand public, enfin de grande exposition, etc., mais aussi des films à exposition plus faible, et que le public qui fréquente le Vidéoclub le fréquente justement parce qu'il sait qu'il va être devant une ligne éditoriale et que cette ligne éditoriale va lui permettre de faire des découvertes. quand les films se rentrent en nouveauté, ils finissent par sortir.
Je dis cela aussi parce que souvent on se dit, bon, c'est des films à risque. Bon, économiquement, on se dit, voilà, il n'y a pas forcément du public. Et en même temps, et je pense que c'est l'expérience du Vidéodrome, si on tient une ligne, si on la tient, si on est, s'il y a une persistance dans cette ligne, un public se fait créer.
Je pense que le travail qu'on fait, donc, que ce soit Vidéodrome, que ce soit Shellac ou d'autres acteurs du territoire, quand il est perçu en termes de construction, c'est-à-dire de construction du rapport des œuvres au public et de construction du public, il donne toujours des résultats. C'est-à-dire que, effectivement, nous, certains films qu'on sort en salle ont une très petite audience. Et du coup, il est toujours intéressant en termes de résultats, ce que ça donne, qu'il soit maintenu en termes de propositions. Parce que la petite diffusion, la petite audition qu'ils ont au moment de la sortie ne correspond pas à la qualité du film ni à l'intérêt que le public a pour ces films, mais correspond au temps et à l'espace qu'il leur est donné à ce moment-là.
Mélanie.
Justement, en vous entendant parler, autant Julien que Thomas, j'entends beaucoup de mots comme découverte, pépite, volonté, implication. Comment ça se passe, Thomas,
de...
Mais c'est moi qui le dis alors. J'ai surinterprété, d'accord. C'est mon rôle. Mais comment ça se passe de rencontrer alors une pépite, une volonté, notamment un jeune réalisateur. Vous parliez de festival tout à l'heure, le festival Ciné Horizontes de Marseille en novembre là, a mis le coup de chapeau sur ces jeunes réalisateurs. Et comment ça se construit? On parlait de construction, de collaboration entre un producteur de cinéma et un jeune réalisateur qui n'a pas forcément fait de film avant, qui n'est pas inséré dans les schémas classiques de l'industrie du cinéma.
Ça se construit avec le temps, comme toute chose, c'est-à-dire la chance d'une rencontre, la possibilité au-delà de cette rencontre de concrétiser par un premier projet, un deuxième, un troisième, apprendre à se connaître, apprendre à être fort ensemble.
Vous avez déjà produit des premiers films ?
Oui, bien sûr. Nous, en production, on est plutôt jeunes producteurs, donc on a produit vraiment le premier long métrage documentaire de Régis Soder, Être là, en production déléguée, et donc film de cinéma sorti en salle, long métrage. On a coproduit le film les films de Miguel Gomsch en coproduction étrangère, minoritaire, mais pas son premier, le deuxième et le troisième. Et puis sinon, ce qu'on produit, tout ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire, je sais pas, on a dû produire 4 moyens métrages et 8 courts métrages, dont 7 dans la collection autour de Marseille, c'était une grande majorité de premiers films.
Mélanie ?
Oui, l'accompagnement de ces films, ensuite, le rôle du distributeur, c'est, en tout cas, c'est chez LAC, c'est quoi ? Qu'est-ce que...
Alors, nous, on est par exemple pas forcément distributeur des films qu'on produit. Si on produit un court-métrage, en tant que distributeur, on a aucune efficacité dessus, parce qu'on est distributeur en salle de cinéma via le réseau des salles commerciales. Donc, sur la sortie nationale, qui se fait le mercredi, sur 5, 10, 15, 20, 50 copies, selon la taille du film. Quand on est producteur, on approche chaque format, chaque film dans son format esthétique, dans son format économique, dans la façon de le financer, de le produire, et après, en fonction, on cherche, comme n'importe quel autre producteur, les moyens de le diffuser, mais sans passer forcément par la distribution de Shellac.
Dernièrement, à Marseille, il y a eu une rétrospective de cinéma de René Alliot. Mm-hmm. Vous avez édité, je crois, les coffrets.
On a travaillé de concert avec Marseille Provence 2013 pour réunir les droits et financer la numérisation du maximum des films de René Alliot. Et après, comme on a les droits, maintenant on les exploite. Donc on a sorti un premier coffret et puis il va y avoir une série d'événements qui vont continuer.
Dans le cinéma de René Alliot, il y a ce film, très beau film, Pierre Rivière.
J'entrais dans la maison de ma mère et j'ai commis ce crime affreux. Ensuite, je partis pour Vire, où je voulais avoir la gloire d'être le premier à annoncer cette nouvelle. Et pour ne pas être arrêté, je résolus d'aller par les bois. En m'en allant, je sentis s'affaiblir ce courage et cette idée de gloire qui m'animait. Et quand j'arrivais dans les bois, je repris tout à fait ma raison. Est-il possible, monstre que je suis, est-il possible que j'ai fait cela? Non, ce n'est qu'un rêve. Abîme, en trouverez-vous sous mes pieds. Terre, engloutissez-moi. Pauvre mère, pauvre sœur. Coupable si on le veut, en quelque sorte, mais ont-elles jamais eu des idées aussi indignes que les miennes? Pauvre malheureux enfant qui venait avec moi à la charrue, qui menait le cheval tout seul. Ils sont anéantis pour toujours, ces malheureux. Jamais ils ne reparaîtront.
Moi, Pierre Rivière, c'était un extrait. Catherine Chazelle, qui est étudiante en cinéma documentaire, tu veux nous parler un peu de ce film ?
À l'origine, René Alioux s'est inspiré d'un fait divers qui a été repris par Michel Foucault. Il s'est basé sur un livre qu'il a écrit. Il a fait des recherches où il a repris en fait le récit même de...
Qui est un livre collectif d'ailleurs, hein, Michel Foucault avec d'autres historiens.
Voilà, avec d'autres historiens. Et aussi qui s'est basé donc à partir du récit de Pierre Rivière qu'il a écrit une fois qu'il a été emprisonné suite à... aux aveux et à son arrestation de cet acte qu'il a commis. Et c'est une histoire qui leur a semblé intéressante aux deux, à Michel Foucault et à René Alioux, parce qu'elle était, elle s'insérait dans un milieu qui, a priori, n'avait pas beaucoup de représentativité, sur un milieu paysan, sur une certaine... des gens qui étaient pauvres, entre guillemets. Et sur l'histoire, la dimension un peu tragique et dramatique de cette histoire et la manière dont Pierre Rivière lui-même se racontait. Ça, c'était complètement atypique que quelqu'un qui puisse s'écrire et raconter son histoire de cette manière. Et pour René Alioux, c'était aussi l'occasion de, à travers cette dimension dramatique, de faire ressortir et d'exhaler une vie. Le quotidien de personnes humbles, en fait, entre guillemets, dans une certaine région, à une époque du 19e siècle.
Je crois que, d'ailleurs, Nicolas Philibert est retourné sur le tournage de ce film. Et ce qui est très frappant, c'est que le paysage a disparu, la langue a disparu. Voilà, là, c'est-à-dire que ce n'était plus possible, quelques années après, peut-être, je crois que c'est 20 ans après, hein, le film de Nicolas Philibert, 30 ans.
Retour en Normandie.
Ouais, Retour en Normandie. Impossible de faire ce film de René Alioux, c'est-à-dire avec ses corps, cette langue et ce paysage. Et ça, c'est toujours assez impressionnant aussi de voir comment, à un moment donné, bon, le paysage culturel, enfin un milieu, bouge et plus rapidement qu'on imaginait. Puis là, c'est vrai que sur ce film, il y a une histoire particulière, effectivement, autour du travail de Michel Foucault et puis ce parricide qui maintenant, grâce à ce travail de Michel Foucault et d'autres, nous a apporté beaucoup. Et parmi les films qui ont des histoires comme ça, il y a un film aussi que je crois vous distribuez, qui s'appelle « Lettre à la prison », qui a aussi une histoire particulière. Peut-être... Julien, tu veux en dire quelques mots ? Tu voudrais nous en dire quelques mots sur ce film que tu m'as fait découvrir il y a très peu de temps.
C'est pour ça.
Qui est vraiment un très très beau film. Tu peux peut-être en dire un peu, quelques mots ?
C'est un film de Marc Chialom qui a la particularité d'avoir été tourné dans les années 60. À l'époque, Marc Chialom était réalisateur, voilà. Et pour s'affranchir, c'était une époque d'émancipation dans les modes de production des films et tout. Il avait décidé de tourner une maquette d'un film qu'il souhaitait produire. Voilà, donc il a tourné la maquette et il n'a jamais réussi à trouver les financements suffisants pour, à partir de cette maquette, la transformer en film. Et donc il a laissé traîner ses bandes quelque part et 30 ans après, par le travail de l'équipe de Film Flamme, le Polygone étoilé, ce film a été exhumé, c'est-à-dire la maquette a été exhumée et a... une forme d'effarement général, bien plus que d'être une maquette, c'est un film splendide qui raconte, qui narre, au moment même où cela a été vécu, les histoires d'exil entre le Maghreb et la France via Marseille, et filmé au moment même où cette histoire-là se passait.
C'est un film que vous avez découvert au moment de la projection, je crois Thomas.
Quelle projection ?
Projection au Polygone, alors, peut-être.
Moi j'étais la première.
Bien proche du micro.
Pardon. Moi j'étais chez là qui a été accueilli au début à Marseille par le Polygone. Donc on est très proche du film Flamme, du Polygone étoilé. Et j'ai vu le film chez eux à ce moment-là, mais bien avant qu'il soit restauré. Enfin, quand ils ont ramené, quand Chloé Sialom, la fille de Marc, a ramené la...
Littéralement, c'est vraiment un film sorti du du grenier, enfin du placard.
De sous le lit, je sais pas.
De sous le lit.
Alors, du coffre.
Parce que tout à l'heure, quand je disais il n'y a pas toujours du cinéma dans un film, alors là, pour le coup, il y a du cinéma. Quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, la technique cinématographique est visible à même ce film, sans pour autant qu'il y ait besoin de voir les caméras. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a des effets de montage qui sont à un moment donné perceptibles, qui fait qu'on comprend que c'est un objet cinématographique. Je crois que c'est important aussi le cinéma se donne à voir comme cinéma.
Disons que en plus c'est des films qui sont dans leur dénuement d'une certaine manière obligés de se poser vraiment la question de comment ils vont raconter, comment ils vont écrire leur histoire, comment ils vont porter leurs enjeux avec ce qu'ils ont à disposition. Donc ce qu'ils ont à disposition, c'est effectivement la situation que Julien a décrite, c'est la situation en termes de production, comment il a tourné ça, et puis le moment où il l'a fait, la façon dont ça s'inscrit dans un temps.
Mélanie.
On parlait justement de techniques, de nouvelles techniques. L'année dernière, vous avez sorti un coffret, Last Room Deplie, avec Thierry Fournier et Pierre Carniaux. Mm-hmm. Et donc, pour l'expliquer très, très rapidement, c'est sur iPad, et donc c'est un coffret qui permet au spectateur qui n'est plus que spectateur d'agir lui-même sur le montage et de faire son propre film. Quelle perspective ces nouvelles formes de cinéma, si on peut encore l'appeler comme tel, ouvrent? Est-ce qu'on arrive vers un cinéma sans grand écran, un cinéma chez soi? Peut-être je rejoins là Julien sur le Vidéodrome. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles formes?
Non, pour moi c'est des Il y a deux choses dans votre question. D'une part, la question de la conception des œuvres, de la façon dont, effectivement, avec les nouveaux outils, on peut écrire et produire différemment. Et donc, je pense que ça interroge ça. Et après, il y a la question de la diffusion, de la manière dont on fait vivre les œuvres et comment on les montre et où. Et là, pour le coup, pour moi, le cinéma, c'est la salle de cinéma dans un rapport frontal et ça changera jamais. Maintenant, il y a plein de formes complémentaires de diffusion, vidéo, VAD, etc., qui existent. Mais ça c'est complémentaire, ça n'a rien au cinéma.
Et Julien, quelle est la posture du spectateur face à ce genre de nouvelles
Ce qu'on rencontre, le cinéma dans sa forme a évolué, enfin, depuis sa création et tout. On peut même aller jusqu'à considérer que la forme télévisée est une forme du cinéma. C'est les mêmes moyens qui sont utilisés. Mais effectivement, il y a quelque chose de comme co-substantiel à la question cinématographique qui est la question du partage public. Et c'est frappant à la télévision et c'est frappant en tout cas au Vidéodrome par exemple, c'est que c'est pas parce qu'on consomme des films chez soi dans sa galette qu'on n'est pas dans un rapport à une communauté. Quand on le regarde et que justement on échappe à la question brutale de la consommation. Et il y a des formes qui sont complémentaires, évolutives, de qu'est-ce que c'est que de partager des films aujourd'hui. La salle de cinéma, c'est-à-dire la salle obscure des inconnus qui regardent ensemble dans la même direction, c'est quelque chose qui appartient même à la télévision. Même à la télévision, la question du direct, on sait qu'on partage en direct des choses avec des millions de gens. En revanche, ce qui change, c'est que c'est la question de si la salle ne change pas, c'est sa réalité économique, c'est-à-dire la salle à horaire fixe à 10 euros la séance. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est un modèle qui est appelé à évoluer. Mais dans un festival où la séance n'est pas à 10 euros, on partage bien ça. Dans des projections comme celles qu'on va organiser au Vidéodrome 2 quand il existera, c'est-à-dire des projections dites non commerciales, etc., ce sera aussi ce type de rapport qui s'éprouve, mais dans une autre forme économique que l'économie vernaculaire du cinéma comme ça, aujourd'hui, parce que ça c'est un moment historique, hein, au début du cinéma c'était dans les fêtes foraines, qui est le lieu géographique précis de la salle de cinéma qui a sa raison d'être, qui va continuer à exister, qui fait un travail de plus en plus difficile, et il y a des choses qui ne peuvent plus advenir là. En ce moment, ça reviendra peut-être. Et donc, il faut trouver aussi des formes différentes. Quoi.
Après, quand je parlais de la salle de cinéma, c'est en termes de dispositif. Donc, c'est le rapport à un écran de 6 mètres de base. Moi, je veux bien qu'on dise que la télé peut devenir une forme d'écriture cinématographique, mais malheureusement, la télé va avec les financements qui vont avec et avec l'exigence de diffusion sur un poste 16/9. Donc, on ne fait pas les mêmes plans, on ne fait pas les mêmes durées de plans, on n'écrit pas de la même manière, et ça va se généraliser encore plus quand il faudra que les œuvres soient diffusables sur les tablettes, où Voilà, hein, le plan séquence large de 2 minutes, il sera proscrit.
Mais il y a eu un moment où des cinéastes, je pense par exemple à Godard et Anne-Marie Bieville, qui ont à un moment donné essayé de prendre cet objet de télé et faire du cinéma dedans. Ils ont essayé à un moment donné.
Alio aussi.
Et Alio d'essayer de faire quelque chose avec ça.
Et tant d'autres. Et ça a dépendu à chaque fois de la capacité de la télé à intégrer ça. C'est-à-dire la capacité aussi des décideurs, des programmateurs télé à accepter dans leur grille quelque chose qui allait être hétérogène avec la télé.
Alors, je parlais de Godard parce que là, ce qui était intéressant, c'est qu'il interrogeait l'objet télé, de ses possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Est-ce que, par exemple, les auteurs que vous défendez, qui travaillent sur l'objet tablette, est-ce que c'est à cet endroit-là, c'est-à-dire de questionner cet objet pour voir ses possibilités
son usage
non, je travaille pas du tout dans ce sens-là. J'ai pas à la fois je trouve qu'il y a trop de choses à défendre du côté des cinémas pour commencer à se disperser sur d'autres choses. J'ai pas quatre mains et c'est un champ intéressant, c'est un champ de diffusion et de création intéressante, mais pour moi c'est un champ qui est mitoyen de celui du cinéma, qui peut l'être mais qui est pas forcément un terrain partagé.
On n'a pas encore écouté la parole d'un cinéaste. Allez, écoutons Miguel Gomez.
Il y a une chose incroyable avec les cinémas, c'est que les cinémas nous donnent des mémoires, même des mémoires des choses qu'on n'a pas connues. J'avais 15 ans, j'étais à Lisbonne et j'ai vu par exemple à la chaîne publique, la télévision, des films de Murnau. Et donc j'ai connu l'histoire du tabou, l'histoire du vampire Nosferatu, cette couple qu'on voit dans l'horreur de Murnau. Donc moi j'avais pas connu ces temps-là, mais le cinéma m'a donné des fausses mémoires. Et donc même quand j'avais 15 ans, j'avais des mémoires des choses que moi j'avais pas vécu. Et tout est mélangé. Je trouve qu'un film commence à exister vraiment que quand il existe dans la tête de quelqu'un.
Un extrait d'un entretien avec Miguel Gomez, un entretien qu'on peut trouver sur le site Univers Ciné, qui est un site de vidéos en ligne dans lequel on peut louer des films et acheter des films. Et là, c'est très beau ce qu'il raconte sur le cinéma qui peut nous fabriquer la mémoire de quelque chose que nous n'avons pas forcément vécu. C'est très beau, non, Thomas? Peut-être quelques mots sur ce qui vient d'être dit.
Non, mais je pense que le cinéma, c'est l'art de l'invisible. C'est donc la manière de produire des images qui sont, Godard le citait comme ça, qui sont entre les images. Et donc de la même manière de travailler sur une construction d'une mémoire à travers, effectivement, des faux souvenirs, des impressions.
Et c'est là qu'on voit aussi du coup la puissance potentielle du cinéma aussi dans un versant peut-être aussi parfois dangereux.
Bah, Hollywood l'a jamais ignoré, cette puissance potentielle. Hein. On en subit le coup tous les jours quand même. Ouais. C'est pas fini.
Julien. j'allais t'appeler David et je me suis retenu. Julien, quelques mots sur ce qu'on vient d'entendre?
Non, mais c'est précieux d'entendre ce genre de paroles, effectivement, quand beaucoup de la relation au cinéma aujourd'hui passe sur des problèmes d'efficacité narrative ou quoi que ce soit, et de nous rappeler que le cinéma, c'est quelque chose qui est là pour créer de la mémoire, que c'est le présent d'un passé et l'avenir d'un présent, enfin voilà, que c'est un rapport au temps, oui.
Alors il ne reste pas beaucoup de temps, et justement sur cette question de l'écriture d'un film, de plus en plus, non, des jeunes cinéastes, alors peut-être que Catherine, tu pourras en témoigner, mais de plus en plus, les jeunes cinéastes apprennent à, disons, écrire des projets pour les financements, les producteurs, les structures qui financent. Et comment se joue ça? C'est-à-dire comment se joue à de ne pas être pris par l'histoire qu'on raconte aux producteurs n'est pas la même histoire qu'on veut raconter dans un film, et que parfois bon, non, c'est difficile, c'est pas le même langage, quoi.
Je pense qu'il faut toujours refuser de rentrer dans les moules et dans les standards qui seraient imposés, parce qu'on se rend compte que quand on en sort, c'est bienvenu, y compris au moment du financement, c'est bienvenu sur les écrans. Le cinéma, c'est comme une industrie du prototype, et donc les spectateurs sont toujours heureux de découvrir des nouvelles formes, de nouvelles manières de porter les choses. Et au niveau du financement, on est en train de tourner le prochain film de Miguel. Miguel, on tourne sur la base d'un scénario qui n'est pas celui qu'on tourne, mais qui est clairement donné comme ça. Parce que, alors on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous raconter pourquoi, mais je reviens de Rotterdam où on développe le prochain film d'Alessandro Comodine qui avait fait les statues de Giacomo. L'été de Giacomo. On est sur un scénario de 35 pages pour un film qui fera 2 heures. On devrait normalement être sur un scénario de 120 pages. Mais parce que le principe du film est là, il est fort, et les gens qui veulent nous accompagner doivent s'appuyer sur la confiance qu'ils ont en nous. C'est-à-dire, on est deux producteurs, Italie-France, et le réalisateur, et sur le projet qu'on développe. Le reste, c'est du mensonge sur ce projet-là. Le reste, ce serait du mensonge, que c'est un projet qui va s'inspirer, qui a travaillé sur la matière documentaire, sur le réel, pour construire sa fiction. Et la fiction, les grandes lignes, les grands mouvements de la fiction sont écrits en 35 pages, c'est suffisant. Sur d'autres projets, non, on va passer vraiment par un séquencier dialogué absolument classique, parce que le film en a besoin, tout simplement.
Je dis cela aussi parce que je sais qu'il y a des cinéastes qui sont dans cette difficulté de mots qu'on leur demande, d'une certaine manière de phraser leur projet qui ne correspond pas à leur poésie, à ce qu'ils sont en capacité d'écrire, et que c'est une vraie difficulté, que ce langage aussi du financement, du producteur, du financeur, et ainsi de suite.
Ouais. Mais ça veut peut-être dire qu'ils doivent chercher une autre manière de fabriquer et de financer leurs films, jusqu'à qu'ils arrivent à une certaine maturité qui leur permette d'imposer leur système pour, cette fois-ci, retourner sur les schémas de financement plus classiques, plus traditionnels. Enfin, nous, ça nous arrivait plusieurs fois d'être un peu à la marge, jusqu'à ce qu'il y ait une maturité qui soit là, qui fasse force d'évidence, qui nous permette de recentrer un petit peu notre manière de financer.
Merci à vous.
Nous
arrivons au terme de cette émission. Nous étions avec Thomas Ordono pour Shellac. Shellac, il y a un site internet qui s'appelle shellac.fr.
shellac-alterne.org.
Des films que vous pouvez aussi trouver, certains d'entre eux, en tout cas au Vidéodrome, Ruvian, n'est-ce pas ?
8 Ruvian.
Que vous pourrez sans doute au mois de juin commencer à aller voir dans un cinéma, disons quand même, une salle de projection. Voilà. Je remercie également Catherine Chazelle, qui est venue nous parler un peu du film de René Alliot, moi Pierre Rivière, et surtout vous organisez avec d'autres étudiants une projection de 4 documentaires.
Oui. Le 31... Les étudiants font leur cinéma.
Voilà, le 31 janvier à 19h au cinéma L'Alhambra à Marseille.
Où tout le monde est bien sûr convié.
Voilà. Cinéma L'Alhambra à Marseille.
Ouais, officiellement le dernier cinéma d'art et essai à Marseille. Hein. Et ce soir, je rappelle qu'à 18h sur les ondes de Radio Grenouille, on fera un focus sur ces 4 films avec les 4 jeunes réalisatrices en présence dans le studio et en direct.
Voilà, exactement. Merci Mélanie pour ces précisions. Merci à vous Thomas.
Merci
Julien.
Chouette. Un direct. Le Batracien sort de sa mare et vous retrouve en ville. Radio Grenouille, en direct. En direct. 88.8 FM. Nous écoutez à volonté radiogrenouille.com. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.